Pour réussir le pass, il faut faire preuve de persévérance et de méthode. Mais rassure-toi, ça s'apprend. Ici Luca de la team Hermione et bienvenue dans Road to Numerus, le podcast dans lequel on décortique le succès d'autres étudiants qui ont réussi le pass. Ensemble, on va se plonger dans leur routine de travail pour que tu évites les pièges dans lesquels ils sont tombés et que tu profites de leurs meilleurs conseils pratiques pour réussir cette année. T'es prêt ? Parce que ça part de là. Quand t'arrives en passe, t'as l'impression de prendre une claque. C'est beaucoup de travail, c'est dur et c'est compétitif. Alors pour augmenter tes chances de réussite, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'apprendre à travailler efficacement. Après avoir réussi la première année, on s'est réunis avec des professeurs et des spécialistes de la productivité et ensemble, on a créé la méthode PASS. C'est notre formation en ligne captivante qui te donne les méthodes pour travailler efficacement. En gros, on te prend par la main pour que tu passes d'un lycéen qui a du mal à travailler en un étudiant très productif. On t'apprend à t'organiser, à te concentrer et à mémoriser pour que tu gagnes des places au classement. Alors si ça t'intéresse, rendez-vous sur hermione.co. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Yasmina du compte Yas Médecine sur Instagram, qui est en deuxième année de médecine, qui est maintenant tutrice à Saint-Étienne. Salut Yasmina.
Salut.
Bon bah écoute, en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir au podcast. Et bah écoute, pendant ce podcast, on va parler un petit peu de ton expérience en médecine, de ton parcours, d'où tu viens et peut-être ce que tu vas faire après. J'aimerais d'abord commencer par déjà la question que je pose à tout le monde. Pourquoi médecine ? Pourquoi la première année de médecine ? Pourquoi t'es partie en P1 ?
Bah, tout simplement parce que je trouve que c'était la seule voie qui m'intéressait. J'ai essayé pendant la passesse, comme tout le monde, quand on n'en peut plus, je m'étais dit, tu sais, pourquoi pas aller voir d'autres orientations. Donc, j'avais regardé par exemple pour le droit, autre chose, mais vraiment il n'y avait rien qui me plaisait. Et puis même depuis que je suis toute petite, c'était la médecine, le fonctionnement du corps humain. J'ai toujours été passionnée plus par les matières scientifiques, que ce soit au collège, au lycée. C'était les matières où je m'ennuyais le moins en cours, on va dire là où j'étais le plus attentive. Du coup, forcément, ça allait de soi. Puis j'ai toujours été fan un peu de mon ophtalmo, de mon médecin généraliste. Toujours j'étais « Waouh, c'est trop intéressant, le nombre de connaissances qu'ils ont et tout, ça me fascine. » Du coup, voilà.
Du coup, bac S avec option SVT, comme ça t'étais prête sur les notions scientifiques.
C'est ça.
C'est ça, ok. Et dis-moi, comment t'as vécu la transition entre du coup le lycée, la terminale S et la première année de médecine ? Comment ça s'est passé pour toi ?
On va dire du coup en terminale j'appréhendais déjà un petit peu la première année de médecine, du coup j'étais plus relaxe. Je sais que c'est pour ça que d'ailleurs j'ai eu mon bac mention bien, parce que je m'étais vraiment pas forcée pour le bac, vraiment je profitais souvent, je sortais beaucoup parce que je savais que l'année prochaine ça allait pas trop être possible, donc j'ai vraiment essayé de faire un max de ressources pour bien commencer mon année. Ensuite ouais. J'ai fait une pré-rentrée dans une prépa, donc ce qui m'a permis de rentrer dans le bain progressivement, parce que je savais que c'était pour de faux en fait. Du coup, j'ai commencé un peu trop à chercher des méthodes pendant cette pré-rentrée qui a duré 10 jours. Ouais. Donc là, j'ai commencé à travailler une heure par jour, puis après 2 heures, puis après 3 heures. Et je trouve que grâce à cette pré-rentrée, je suis grave rentrée dans le bain facilement. Puis après, une fois qu'on est dedans, enfin moi personnellement, j'avais pas l'impression d'être en passesse. En fait, j'avais juste l'impression d'avoir une année scolaire normale. Bon, sauf le jour du concours, quand on voit tout le monde autour de nous, on se rend compte que c'est pas une année normale. Mais sinon, après, avec le rythme des cours, etc., voilà quoi, faut juste pas commencer du tout au rien. Genre, on travaille pas du tout, commencer à travailler par 12 heures par jour.
Moi, je sais que le mois de septembre,
mois de septembre, j'excédais pas les 18 heures pour travailler.
Clairement, mais du coup, t'as commencé, j'imagine, en mi-août, quelque chose comme ça, pour commencer en septembre après.
Le 19 août.
Le 19 août, ok. Okay. Et du coup, ça t'a permis à faire une transition plutôt douce, en fait, si je comprends bien, entre ton lycée et ta première année, ok. Et c'était quoi ton ressenti du S1 par rapport au S2 ? Est-ce que t'as été peut-être. Comment s'est passé ton S1 d'ailleurs ? Vu comme tu me le dis, ça a l'air d'être peut-être plutôt très bien passé.
Mon S1, ouais, c'est super bien passé. Mais par contre, mon S2, au contraire, c'est très mal passé. Et ça, c'est dû au confinement, je dirais.
Ouais.
Parce que je suis quelqu'un qui sort beaucoup, justement, qui a besoin de voir des gens. Je suis hyper sociable comme fille. Donc, je faisais beaucoup de sport aussi pendant la passesse. Ça me permettait de me libérer. Et puis surtout que moi, je travaillais en binôme. Et du coup, le confinement m'a séparée de ma binôme.
Ah
Et
oui.
du coup, bah, ça a été un coup dur pour moi.
Que toi, t'as pas eu de chance, tu faisais partie de l'année où il y a eu ce Covid qui nous est tombé dessus.
Ouais.
Comment t'as réussi à t'organiser par rapport à ça? Parce que bon, en dehors de la peur générale que ça a pu créer, j'imagine que ça a dû aussi te perturber dans ta façon d'apprendre, tes cours, comme tu disais, avec ton binôme, mais aussi toi-même, j'imagine.
Bah, ça m'a pas mal perturbée, mais du coup, après, on s'appelait en FaceTime. Ça changeait de la réalité, mais du coup, on a un peu trop une alternative. Mais je sais que du coup, pendant cette période, j'ai développé pas mal de crises d'angoisse. Donc, ça a été dur pour moi. Du coup, j'ai pris une psychologue parce que vraiment, mes crises d'angoisse, elles étaient au moins 7 fois par jour. Mais c'était quand même assez violent comme crise. Donc, c'était vraiment tachycardie, palpitations, vomissements. S2, j'ai perdu plus de 10 kilos. Genre, vraiment, c'était très dur, mon S2 comparé à mon S1. Mon S1, c'était limite les vacances. Je me sentais bien. J'allais à la fac les matins, l'après-midi. Je révisais donc avec ma copine. En fait, on habitait dans la même résidence. Donc, une fois, c'était chez moi, une fois, c'était chez elle. Donc, tout s'est bien passé. Sauf que là, en plus, au S2, on nous a mis 2 mois de révision au Lodin, comme du coup, le concours a été décalé. Donc, c'était un mois de torture supplémentaire. voilà. Le S2, ouais, ça a été très dur. Du coup, la solution qu'on a trouvée, c'était les appels FaceTime. Bon, ça marchait, mais bon, enfin, je trouve qu'on se déconcentrait plus vite. Du coup, après, on a arrêté les appels FaceTime, et du coup, j'ai dû apprendre à travailler seule. J'ai
Ouh.
réussi, du coup, à travailler seule, mais
Ça a dû être un
c'était
sacré
dur.
challenge, ça, quand même. Ça a dû être un sacré challenge. C'est marrant que tu me. C'est la première fois que j'ai un invité au podcast qui me dit que comment dire, que le S1 se passe bien et que le S2 se passe moins bien. J'ai eu beaucoup de monde qui me disait justement le S1 se passait bien. Et après, bah, quand il a fallu se remotiver pour le S2, c'était difficile. Enfin, toi, j'ai l'impression que c'était en fait complètement différent dans le sens où ça avait rien à voir avec ta motivation ou alors avec ton résultat ou ton travail. C'était plutôt. Enfin, le Covid, quoi.
Ah oui, ça a strictement rien à voir, surtout qu'en plus, nous, on avait que 5 jours de vacances entre le S1 et le S2. Donc en soi, on perd pas l'habitude. En plus de ça, j'ai eu mes résultats, et quand j'ai eu mes résultats, bah, ils étaient très bons. Du coup, bah, j'avais aucune raison d'être démotivée. Et en plus, après, le janvier s'est bien passé, février aussi. Et vraiment, début mars, bah, dès le début du confinement, là, ça a été un peu l'enfer. Donc c'est vraiment le confinement en soi, parce que étant donné que je savais que si j'avais pas cette première année, pour moi c'est un peu comme si je loupais ma vie, parce que voilà quoi, je me vois pas autre chose que médecin. Vraiment, j'ai cherché, hein, vraiment, j'ai passé des nuits à me torturer en me disant mais c'est pas grave si tu l'as pas et tout, là ta santé elle suit plus, faut que tu fasses attention à toi. Mais impossible, j'étais acharnée. Donc voilà.
C'est qui t'a permis d'aller jusqu'au bout, j'imagine, justement.
Ouais, je pense que c'est ça la détermination. Et me dire que vraiment, je me voyais pas autre chose que ça. Vraiment, c'est. Je sais pas, c'est pour moi, c'est. Je l'ai dans le sang, la médecine, vraiment, j'adore ça. Je pourrais passer des heures à rester à l'hôpital auprès des patients, je sais pas, même s'il y en a qui disent, ouais, les stages, c'est pas ouf et tout. Moi, même si juste je suis l'interne et que je fais pas des trucs de ouf, juste d'être à l'hôpital, c'est comme si j'étais à Disneyland.
C'est beau ça, c'est beau à entendre ça.
Hein.
Et est-ce que du coup, qu'est-ce que tu conseillerais parce que tu m'as dit juste avant que tu as dû radicalement changer ta méthode de travail et devoir apprendre à travailler toute seule. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait à quelqu'un qui est dans la même situation que toi?
Bah, du coup, en fait, je sais que quand on était à deux avec du coup ma copine, ce qu'on faisait, c'est qu'on se posait souvent des questions. Je trouvais que ça rythmait notre cours. On lisait 2 pages, on se posait des questions. Et du coup, bah, ce que j'ai trouvé à faire moi pour du coup la remplacer, c'est qu'en fait, je prenais un papier et j'écrivais les questions sur une feuille à côté. Et en fait, à la fin du cours, bah, je me rythme. En fait, je trouvais un moyen de la remplacer à chaque fois. Donc là, j'écrivais des questions et j'y répondais à la fin du cours toute seule. Ensuite, après, ben, je sais que ben, j'avais un appartement, et du coup, je suis rentrée chez mes parents. Voilà, après, du coup, j'ai commencé à plus à travailler dans le bruit, parce que le silence, je sais qu'au bout d'un moment, c'était pesant. Je sais que quand on était à deux, il n'y avait pas vraiment un peu de silence. Il y avait, enfin, voilà, des moments où on papotait 5 minutes, ou alors on se posait des questions. Du coup, c'était quand même assez dynamique. Du coup, ben, je sais que je travaillais souvent dans mon salon, avec ma mère et ma sœur qui vivaient à côté, tranquillement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Bah, au début déjà, parce qu'il faut quand même une transition, c'était les appels FaceTime, parce que vraiment, sinon, quand on passe de tout au rien, c'est très dur. Et après, voilà quoi. Enfin, par exemple, les cours de SSH, donc c'est un truc où on doit rédiger. Enfin, je sais que nous, on devait rédiger 20 lignes au concours. Donc je sais que là j'ai commencé à l'apprendre de façon dynamique, donc je marchais. Et en même temps je lisais la conférence et je faisais genre que c'était moi la conférencière, que je faisais, enfin je faisais conférence dans mon salon. Donc voilà, je marchais et je récitais à voix haute et voilà, donc j'essaie de changer un peu toutes mes méthodes parce que du coup comme ma méthode était basée sur elle, en fait, comme on était tout le temps ensemble et qu'on faisait les mêmes choses en permanence, bah, il a fallu que je trouve un autre rythme. Donc
T'as essayé de la reproduire un petit peu différemment en t'autant auto-créant des questions par exemple ou en récitant à voix haute
ouais,
tes cours,
voilà,
c'est ça?
c'est ça.
Ok.
Parce que moi, je trouve ça triste de travailler seule dans une chambre sans bruit. Je trouve ça démotivant.
Ah, tu sais, il y a des gens qui justement préfèrent bosser seul, mais c'est vrai que nous en général comment dire, on recommande plutôt de travailler en groupe parce que non seulement on va dire c'est plus folklorique entre guillemets, mais aussi ça peut vraiment aider. Notamment nous, on conseille souvent de faire des QCM entre potes quoi, entre potes
Ouais, c'est hyper
pour se tirer vers
motivant.
le haut et s'expliquer les notions qu'on comprend pas. C'est motivant, on avance ensemble. Enfin, il y a un but commun, tu vois. Quand on est seul, le problème c'est qu'on est vraiment seul face à soi-même. Et s'il y a un problème ou si on comprend pas un truc et qu'on est, je sais pas forcément dans une prépa ou dans un tutorat, on peut vite se retrouver seul et ça peut être vite très très démotivant en fait.
Je connais le cas d'un garçon qui a loupé sa première année de médecine parce que les BU ont fermé. Et que là, il a eu du mal aussi
Ah.
cette année parce que les BU ont refermé cette année aussi. Donc, le problème,
Parce que lui,
c'est.
il avait besoin du cadre BU pour être concentré et travailler efficacement.
C'est ça, ouais.
Ok. Alors imagine comment est-ce que vraiment on pourrait imaginer recréer un cadre BU à la maison? Donc il faudrait qu'il y ait quoi? Il faudrait qu'il y ait bureau, pas d'ordi,
Ouais.
pas de
Un moyen.
téléphone.
Ben, en soi, moi je sais que je travaille à la BU aussi avec mon ordi, mais sinon, ouais, en fait, bah, faire une BU virtuelle, quoi. Moi, c'est ce que j'aurais fait avec des potes si on a des potes. Sinon, je sais qu'il y a des sites de BU virtuelle où. Enfin, moi, je sais que pour moi, dans BU, en fait, c'est plus le fait de voir des gens travailler autour. Ou alors, je sais pas, il y a de plus en plus de StudiGram qui développent les Studi Live où le StudiGrammeur, il se filme en train de travailler. Et on travaille dessus. Moi, je pense que j'aurais fait ça à la place.
Ouais, il y a aussi des vidéos Study with me sur de 4 heures ou de 12 heures sur sur YouTube que tu peux mettre en fond, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider pas mal quand on est seul chez soi. Se mettre
Ouais.
quelqu'un qui bosse en fond, ça fait une petite présence aussi. Surtout qu'il y a souvent des bonnes musiques qui sont mises avec, sans parole. Juste du lofi un peu chill,
Ouais.
des petites notes de musique qui dérangent pas quoi, voilà, qu'on peut mettre en fond sonore pas trop fort, qui dérange pas trop. Est-ce que tu te souviens d'un moment où du coup t'avais vraiment la motivation à zéro quoi, où tu sentais que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a un moment où t'avais peut-être repensé ton orientation et tout,
Ouais, bah
et
c'était bah, consécutif au confinement, en fait. C'est que là, j'ai commencé à un moment à faire beaucoup de crises d'angoisse. Et
ouais.
pendant une semaine, bah, j'arrivais plus à travailler, en fait, parce que je me sentais en permanence étouffée. Donc c'était, on va dire, mi-mars. Je me sentais tout le temps étouffée, j'arrivais plus à rien. Vraiment, j'étais tellement mal dans ma peau qu'en fait, j'arrivais même pas à me concentrer un minimum sur un cours et ça me frustrait davantage. Donc, du coup, bah, plus j'étais frustrée et plus bah, je me sentais mal. Et du coup, je faisais même des insomnies. Et voilà quoi. Après, je sais, quand on fait des crises d'angoisse, enfin, on a peur d'en refaire. Donc, moi, chaque fois que je faisais une crise d'angoisse, que ça se terminait, j'avais peur d'en faire une. Sauf qu'en ayant peur d'en faire une, j'en déclenchais une nouvelle. Et voilà, pendant une semaine, j'avais pas travaillé. Sauf que du coup, bah, comme j'ai perdu beaucoup de poids et que j'ai tout le temps tachycardie, bah, j'ai dû être hospitalisée pendant 2 jours. Pour
Ouh, ah
voilà.
oui.
Oui, on m'a donné des bradycardisants, etc., etc., parce que vraiment, je battais à 150, hein, tout le temps. Tellement j'étais
Waouh.
stressée, etc.
Ah mais au moins on t'a amené à Disneyland.
C'est ça.
Ah, je suis vraiment désolé d'entendre ça, hein. Tu sais, la détresse étudiante, c'est vrai que c'est un thème qu'il faut pas du tout laisser de côté. C'est même très très actuel. Comment t'as fait pour te sortir de là et qu'est-ce que tu conseillerais à d'autres étudiants qui sont vraiment pas bien dans leur peau à cause de la situation actuelle?
Bah, moi, je sais que du coup, bah, vraiment, bah, déjà, ça, je faisais peur à ma mère, hein, quand elle voyait comment mon état de santé se dégradait. Du coup, je sais que ma mère m'a pris un psy. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui, il faut pas prendre des psys, nanana, ils ont l'impression d'être fous. Mais pas du tout, moi ça m'a fait trop du bien, ça m'a permis de recentrer sur moi-même. Donc du coup, déjà rien que le fait de parler à quelqu'un, de se vider
Oui.
et d'être compris, d'être écouté, déjà ça m'a aidé.
Mmh.
Et puis du coup, j'ai dû m'adapter parce qu'avant, j'avais un peu... Enfin, je refusais de m'adapter en fait, alors que j'avais pas trop le choix. Je sais que bah, vraiment au début du confinement, le confinement de mars, c'est pas le confinement de maintenant. Enfin, c'était vraiment, on pouvait rien faire, rien faire. Et donc voilà, donc là j'ai commencé, on avait le droit à 1 km autour de chez nous.
Ouais.
Donc je faisais 1 km tous les jours, voire plus, et je courais beaucoup. Tous les jours, il fallait que je coure. Je prenais plus du tout soin de moi, donc ce que j'avais fait, c'est que bah, avec la psy, elle m'avait dit tous les matins, fallait que je prenne soin de moi, donc ce que je faisais plus depuis le début de la PACES, donc je me remaquillais, je m'habillais, comme si j'allais un peu à la buée ou que je sortais dehors.
Ouais.
Donc déjà je faisais ça. Après, des trucs qui sont bêtes, hein, mais à la fin de la journée, ma psy elle me faisait écrire les points positifs de ma journée hors études de médecine. Donc je sais que j'avais ralenti mon rythme, donc c'était pas le même rythme que mon S1. Au S1, je travaillais un peu comme une folle. Donc du coup, au S2, je travaillais moins, je prenais le temps de passer des moments avec ma famille, donc regarder des films, bah, faire des balades en famille autour de chez nous, bien sûr. Prendre plus le temps de manger, pas manger toute seule, limite en train de
Ouais.
travailler en même temps, manger avec ma famille, appeler des amis hors médecine aussi. Donc tout ça m'a aidé un peu déjà à penser plus à moi. Et du coup, j'allais beaucoup mieux.
C'est ça, tu as parlé justement d'un moment où tu disais noter sur un papier les choses qui se sont bien passées dans ta journée et tout, en dehors de la médecine. Et bah, ça aussi, c'est un truc qu'on conseille grandement, ça s'appelle la gratitude. Ça peut paraître un peu farfelu comme ça au premier abord, mais en fait, c'est une question de modèle mental. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, si on continue à écrire soir après soir les choses positives qui sont passées dans la journée, au final, on va retenir majoritairement du positif. Donc en fait, l'état d'esprit va, comment dire, se tourner et voir plus de positif. Donc c'est une très très bonne technique quand on est d'ailleurs un peu au fond du trou, que c'est difficile, pas forcément. Comment dire, comme toi avec la santé, mais juste un coup de mou ou quoi, c'est très bien de prendre. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On fait ça le matin, le soir avant de se coucher ou quoi, quand on a la tête un peu vide. Et on note trois ou quatre, c'est rien, trois ou quatre choses qui vraiment ont été positives pour qu'au final le cerveau s'habitue à penser plutôt positif. Ça, c'est vraiment génial. T'as cité que des bonnes choses. Hein. Regarde, appeler des gens qui ont rien à voir avec la médecine et qui sont des proches à toi, ça fait du bien. Faire du sport, s'aérer, ça fait du bien. Faire des pauses avec sa famille, sans travailler, ça fait du bien. Donc, 100%. Tous les conseils que t'as donnés, je les valide, mais vraiment à 200%, quoi.
Bah surtout que je sais que pourtant je suis pas une adepte du sport, enfin de la course, enfin la course en tant que telle. Je suis pas
Ouais.
une adepte du tout, mais pourtant je m'y suis mis. Et pareil, j'avais beaucoup d'a priori sur le fait, enfin déjà un a priori sur les psys, et un a priori sur le fait de noter ce qui est positif dans la journée. Je me disais, mais ça va me servir à rien. Enfin, j'avais beaucoup d'a priori. Donc tout ça pour dire que ça peut fonctionner sur tout le monde, si ça a fonctionné sur moi alors que j'étais pleine d'a priori.
C'est bien dit ça, c'est bien que tu le dises, c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai que on a tendance à aller un peu vite au jugement et si on n'a pas une solution rapide et efficace, on va laisser un peu de côté. Ça prend du temps, c'est des choses qui prennent du temps à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est vraiment bénéfique sur le long terme et ça, je le recommande 100%. Tu m'as dit tout à l'heure que à ton S1, tu avais vraiment un rythme de folle. Et le S2, c'était un peu différent. Est-ce que tu peux me dire le planning type d'une journée au S1 et au S2 pour toi, ce qui a changé?
Alors, S1, déjà, j'étais allée progressivement, donc on va pas compter septembre jusqu'à mi-octobre, parce que du coup, comme j'avais fait une pré-rentrée, j'avais pris pas mal d'avance sur certains cours, du coup, je travaillais moins parce que je les avais déjà plus ou moins bien vus.
Ouais.
Donc, on va dire que en septembre, c'était plutôt donc j'allais en cours tous les jours. Donc ça changeait pas de septembre à décembre. Donc j'allais en cours c'était 8h à 12h30 à peu près. Et après, normalement, je reprenais le travail à 14h. Et après, donc du coup, septembre, mi-octobre, je travaillais jusqu'à 18h. Et le soir, ça m'arrivait de temps en temps de faire des QCM en groupe, justement, pas toute seule. Et après, bah, là où j'ai commencé à travailler comme une folle, c'est plutôt début novembre. Où voilà, le rythme s'accélère, les chapitres un peu plus pénibles commencent à arriver avec le métabolisme, etc. C'est plus dur, ça prend plus de temps, du coup, il faut accélérer le rythme. Donc là, toujours comme la fac était encore ouverte, donc c'était 8h, 12h30, donc j'allais toujours en cours parce que bah, ça me permettait de sortir, de voir du monde.
Ouais.
Donc voilà. Après, toujours, je me laisse toujours à peu près une heure et demie pour manger parce que le temps que je prenne le tram pour rentrer chez moi, etc., que je me fasse à manger. Donc, je reprenais à 14h.
Ouais.
Et ensuite, toujours, normalement, je travaille toujours de 14h à 18h non-stop. Généralement, je fais pas de pause, sauf pour manger un petit peu, mais je fais pas de grosses pauses. En fait, tant que je suis concentrée et tant que je suis dans le bain, je m'arrête pas. Parce que si je m'arrête alors que j'en ai pas spécialement besoin, après, c'est trop dur de reprendre.
Ouais, je connais ça.
Voilà, mais par contre, si j'en ressens, en fait, je faisais les pauses quand j'en ressentais le besoin, je me mettais pas des pauses fixes. Admettons, si un jour de 14h à 16h, je fais un chapitre qui est plutôt pénible, ben je vais pas hésiter à prendre une pause. Mais si je suis bien lancée, je m'arrête pas. Et après, généralement, de 18h à 18h30, je faisais toujours un peu une pause où on sortait se dégourdir les jambes avec mes potes qui étaient dans la même résidence que moi. Parce que bon, rester assis tout le temps, c'est pénible. Et puis après, bah, moi je mangeais toujours vers 20h, donc du coup de 18h30 à 20h je reprenais, mais là je reprenais plus les chapitres des semaines d'avant. C'était pas les chapitres que j'avais fait le matin même ou de la semaine, c'était plus j'allais chercher plus loin, donc pour refaire bien mes tours. Et après, donc de 20h à 21h je mangeais, et après du coup de 21h à 23h généralement, là c'est, je sais que moi je m'entraînais beaucoup, et je pense d'ailleurs que la clé de la réussite elle est dans l'entraînement. C'est que de 21h à 23h, c'était que des QCM.
Que des... Ok,
Vraiment,
d'accord.
je les ai saignés, les QCM. Hein.
Bah,
Pas un seul que j'ai pas fait.
justement, si je peux relever un truc de ce que tu as dit et qui, moi, je pense, est vraiment très très bien. C'était par rapport à tes pauses. C'est-à-dire que tu m'as dit que tu prenais les pauses quand tu sentais que c'était le moment. Et notamment, tu sortais avec des gens pour prendre un peu l'air et te dégourdir les jambes. Ça aussi, c'est sous-côté. Ça, c'est vraiment sous-côté, le fait de prendre des pauses quand on sent le besoin, que ce soit plus ou moins de pauses d'ailleurs. Si on se met dans le planning de faire 5 pauses par jour et qu'en fait on a besoin de moins, bah, on peut en faire moins. Par contre, je voulais noter ce que tu as dit sur le fait de sortir dehors. Ça, c'est aussi ultra important pour réoxygéner son cerveau et en fait revenir plus concentré en soi. Revenir plus concentré.
Carrément.
Et pour les QCM, ça aussi, hein, ça aussi c'est top. Enfin, je me rends compte que tu as tout fait comme il fallait en fait. Hein. Parce que les QCM, c'est vrai que c'est le problème de beaucoup de monde de faire l'erreur d'apprendre par cœur et finalement pas assez se tester. Et en fait, se rendre compte plus tard qu'il nous manque de l'avance sur certaines notions, tu vois. Il nous manque des cours, quoi. Parce qu'on sait pas, on a appris en lisant, en essayant de mémoriser, mais comme on sait pas tester, on sait pas trop où on en est, quoi.
Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve que les QCM, ça permet de savoir ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris. Et surtout, bah, de voir. Des fois, on a l'impression de connaître super bien un chapitre, alors qu'en fait, on n'a rien retenu. Et des fois, c'est l'inverse. On a l'impression que le chapitre, on ne connaît absolument pas. Alors, quand on se teste, eh ben, on y arrive bien. Donc, vraiment, moi, les QCM, ça me permettait toujours de me situer. Et puis, surtout, ça me permettait de me tromper. Parce que du coup, si on fait des erreurs, eh ben, on ne les refera pas deux fois. Parce que moi, généralement, les erreurs, ça me traumatisait. Et j'étais énervée contre moi-même. Parce que du coup, généralement, les erreurs, on tombe dans un piège. Généralement, on sait la réponse au fond de nous, mais bon, il y a des questions, des QCM, des fois on n'arrive pas à y répondre parce qu'on connaît pas tout le cours, mais des fois il y a des QCM, on connaît la réponse, mais on tombe dans le piège quand même. Généralement, c'est ce genre de piège-là qui nous traumatise, et moi qui m'énervais. Du coup, je le notais bien en rouge sur mon petit carnet d'erreurs. Et
Ah,
voilà.
t'avais un carnet d'erreur toi aussi. Ah, t'as pas carré d'erreur, ok.
Ouais.
Ça aussi top, hein,
Bah, je me
top.
trompais tellement que.
C'est tout le monde ça. C'est tout le monde ça, Yasmina. Tout le monde se trompe à fond. Il y a tellement d'infos. Il y a tellement d'infos. C'est très difficile de pas se tromper.
Puis des QCM, c'est quand même super précis.
Ouais, de ouf. De ouf. En plus, il y a des points négatifs. Donc si tu te trompes, tu perds des points, en fait.
Pas dans ma fac, nous, il n'y avait pas de points négatifs.
Ah
Si
bon,
au
il n'y en avait
pire,
pas
on avait
toi?
tout faux,
Ah
au pire, on
ouais.
avait zéro.
Ok, bon, en fait, toi, c'était mieux alors. Parce que là, j'ai eu, il y a quelques jours, une invitée au podcast qui était à Toulouse. Et elle, il y avait vraiment des QCM à points négatifs. Donc là, c'était vraiment un combat avec sa conscience et soi-même pour se dire, non, là, je réponds pas parce que je suis pas sûr, tu vois. Ça va être
Ouais.
difficile, ça. Et comment tu faisais pour mémoriser tes cours? Ça se passait comment pour toi?
Alors moi, j'ai plusieurs méthodes pour mémoriser mes cours. En fait, moi, en fait, j'aime bien de mélanger plein de méthodes pour apprendre. Donc
Ok.
déjà, de base, j'ai une mémoire auditive, mais bon, au S1, j'écoutais mes cours, mais soyons honnêtes, quand on est dans l'amphi, on a des collègues d'amphi, on a plus envie de parler que d'écouter le cours, et puis normalement, on n'est pas toujours au top. Donc en vrai, j'écoutais des cours. Il y avait des cours que j'écoutais jusqu'au bout, mais bon, C'était quand même assez rare. Donc ma mémoire auditive, j'ai un peu laissé tomber.
Ouais.
Mais du coup, j'ai... Je sais pas comment on appelle la mémoire où on écrit. Moi, j'écrivais beaucoup. Je crois qu'elle a un nom, en vrai. Mais je sais que moi, du coup, c'était soit, bah, par exemple, pour les matières par cœur, donc je marchais en récitant. Et sinon, bah, même en P2, hein, quand je dois apprendre mes cours, c'est pour ça que généralement, quand on dit, ouais, en P2, il faut travailler un mois en avance, bah, moi, ça me prend plus de temps parce que bah, mon premier apprentissage d'un chapitre, il dure 4 heures.
Okay.
Tous les chapitres, un chapitre de 20 pages à peu près, il me faut 4 heures pour... l'apprendre, mais par contre, une fois qu'il est fini, je le connais bien, bien, bien.
Ok, donc comment tu fais? Tu le lis d'abord une fois, ensuite tu relis en détail, ou comment tu fais?
Bah, du coup, ce que je fais, c'est que je lis d'abord une fois en survolant un peu pour voir de quoi ça parle.
Ouais.
Et après, du coup, là, à ma première lecture,
ouais.
J'essaye de cibler ce qui va être important ou pas. Bon, après, des fois, généralement, il y a des plus-plus quand le prof l'a dit à l'oral qu'il fallait bien insister, donc là, j'ai pas trop besoin de faire le tri. Et après, ben, je prends un brouillon, parce qu'en fait, c'est pas des fiches de révision que je fais, en fait, c'est juste j'écris pour écrire.
Oui.
Et j'écris, en fait, au fur et à mesure, donc je lis, puis je mets ce que je retiens. Donc en fait, on va dire, je lis 10 lignes, et je réécris sur les 10 lignes ce que je retiens. Après, du coup, je relis mes 10 lignes, et je compare, et je continue comme ça. Donc, ça me prend du temps, mais pour moi, c'est super efficace.
Après, c'est bien ancré dans toi, en fait. Une fois que tu l'as réécrit, ouais. Que tu vois ce qui te manque par rapport à ce que tu as réécrit, en fait, tu t'assimiles plus vite que juste le lire 5 fois, quoi.
Voilà. Après, voilà, je prends 4 heures, mais après, il faut que je le revoie plusieurs fois, plein de petites fois. Par exemple, après le cours, je le reprends, je le lis 15 minutes et puis c'est bon.
Comment tu organises ça d'ailleurs? Parce que ça, c'est une super bonne méthode aussi. Nous, le champion de France de mémorisation qui a participé à la formation, il nous a donné des techniques comme ça aussi, justement, et il expliquait que ce qui est très, très important, le plus important en fait, pour n'importe quelle information qu'on veut retenir, c'est de la revoir assez souvent avec un intervalle de temps pas forcément régulier, mais qu'on laisse du temps pour l'information de décanter en soi. Par exemple, ça sert à rien de revoir le jour et le lendemain la même chose, quoi. Ça sert à rien. Mieux vaut le voir 3 ou 4 jours plus tard, tu vois. Et donc moi, je me posais la question, comment tu faisais? T'avais genre la méthode des J, par exemple, pour organiser quand est-ce que tu revoyais les cours? Ou tu faisais ça avec l'instinct? Ou comment tu faisais ça?
Ben moi, c'était un peu l'instinct, parce que je trouve que la méthode des J, ça met trop de pression. Parce qu'après, des fois, des jours, on se retrouve avec trop de cours d'un coup. Et moi, voilà, j'étais pas trop pour. Donc ce que je faisais, moi, c'est que déjà, les matins, j'avais cours. Donc l'après-midi, je faisais les cours du matin, jusqu'à peu près 18h. Comme moi, il me faut quand même beaucoup de temps avec ma méthode, etc. Donc là, moi, dès mon premier apprentissage, il y a quand même pas mal de choses qui sont rentrées parce que j'y passe plus de temps. Et après, comme je te disais, de 18h30, généralement, comme je finissais ma pause à 18h30 jusqu'à 20h, bah, là, je reprenais les cours qui dataient de très très loin, donc par exemple 1 ou 2 mois.
Ouais.
Et ensuite, le samedi, je reprends tous les cours de la semaine. Je fais le samedi du week-end, je prends tous les cours de la semaine. Et le dimanche, je reprends tous les cours de la semaine d'avant.
Ok, donc tu les relis ou tu refais la même chose dont tu m'as parlé ou tu réécris
Non, là du coup, comme ils ont bien été faits une fois, là c'est de la relecture et des QCM. Donc en fait, avant de reprendre un chapitre, je faisais toutes les annales. Bon, généralement j'en faisais une dizaine parce que des fois il y avait un peu trop d'annales. Je fais 10 annales,
ouais.
Je mets au courrier, je mets une note sur 10. Si j'étais en dessous de 8 sur 10, je reprenais bien bien le chapitre, donc en réécrivant.
Ouais.
Si j'étais au-dessus de 8 sur 10, je redisais. En fait, si j'avais 10 sur 10, je disais en 15 minutes. Si j'avais 9, on va dire que je prenais peut-être un peu plus de 30 minutes, et 8, 45 minutes, un truc comme ça.
Ok. En fonction, tu regardais les réponses que tu avais eues juste ou faux, et tu regardais ça dans le cours, où est-ce que tu avais pu écrire
ouais,
ça?
La partie où j'ai fauté, je redétaille et je l'entoure pour la prochaine fois où je relirai.
Ouais. Ok, bah écoute, c'est idéal. Écoutez ce qu'elle vous dit, parce que c'est de l'or en barre, là, comme tu t'organises, vraiment. C'est idéal, c'est vraiment idéal. Et du coup, bah, moi j'avais une question à te poser, mais j'imagine qu'elle a aucun sens, du coup. C'est si tu devais faire quelque chose de mieux ou de différemment, qu'est-ce que tu ferais? Enfin, qu'est-ce que t'aurais fait, en fait?
Bah peut-être, je sais que j'avais commencé avec les plannings au tout début, donc peut-être enlever les plannings dès le début, peut-être, parce que moi je trouve que les plannings, c'est un... Après, peut-être certains, ça les aide. Ou alors, du coup, faut juste faire une liste exhaustive, peut-être, de cours qu'on doit faire. Moi, je sais que, du coup, je faisais ça aussi, j'ai oublié de te préciser, c'est que tous les dimanches, je faisais une liste des cours que je devais voir dans la période de 18h30 à 20h.
Ouais.
Il fallait que j'ai fait toute cette semaine. Après, si je les avais pas fait, J'étais pas très frustrée parce que c'est pas comme dans un planning on se dit généralement entre cette heure-là et cette heure-là, faut qu'on ait fait ce chapitre, sauf que des fois ça arrive que pendant cette heure-là, on ait un petit coup de mou, on est démotivé, ou des fois on va sur notre téléphone 5 minutes, ce qui se transforme en 1 heure, parce que voilà, on n'est pas des machines, donc au bout d'un moment, des fois, on se laisse aller, donc moi je sais que les plannings, dès le début, ça m'avait pas mal stressé. Et après, le fait de les avoir enlevés, ça m'avait déstressé. Par exemple, pendant le mois de révision, j'avais pas de planning. Enfin, je m'en étais fait un. Parce que ouais. Tout le monde en avait fait un et ça me stressait de pas en avoir un. Mais en réalité, je le regardais pas trop. Enfin, c'était pour moi, je le considérais plus comme une liste que de tel horaire à tel horaire, je devais faire ça.
Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord, je comprends. Ouais, donc c'est plutôt en fait une liste d'objectifs pour la semaine ou quelque chose comme ça. Et ensuite, chaque jour, un peu au feeling, mais assez raisonnablement.
Voilà.
Sans mettre d'heure exacte.
Pas d'heure précis.
Voilà, ok. D'accord. Ok.
Après, je sais que j'essaie quand même de commencer au S1 par les matières calculatoires le matin. Parce que je trouve que le matin, on est généralement endormi si on commence par des matières à par cœur. Moi, ça m'est arrivé de m'endormir sur ma chaise. Hein, parce que des fois, on est tellement fatigué que voilà, je m'endormais sur ma chaise. Mais commencer par des... Moi, je commence toujours par la physique ou des maths. Et au S2, on avait encore la physique. Donc, je commençais toujours par ça les matins. Ça permet de se réveiller, je trouve.
Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Ça dépend vraiment des gens. Et puis, c'est pareil aussi pour caler ses repas aussi différemment. C'est-à-dire que, par exemple, il faut éviter de mettre des gros blocs d'apprentissage, soit tôt le matin, soit juste après le repas de midi, parce que c'est le moment où on est en digestion, quoi, on est fatigué. Mieux vaut mettre des petits QCM faciles à faire. Voilà. Ça, il faut faire attention aussi, parce que forcément, on a des cycles d'énergie dans notre corps. Et il y a des moments où on a plus d'énergie que d'autres. Et il faut. Enfin, l'idéal, c'est vraiment d'optimiser ces moments-là avec les matières les plus compactes ou les activités les plus compactes, quoi. Ouais. Maintenant, je voulais parler un petit peu de ton compte Insta. Parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Et je voulais d'abord savoir comment tu as eu l'idée de te lancer. Donc, tu m'avais raconté un petit peu quand on s'est eu au téléphone avant. Mais je suis curieux que tu nous dises un peu plus.
En vrai, c'est pas comme tous les studigrammes qu'ils avaient prévu de faire ça. Moi, c'était pas très prévu.
Oui.
En fait, j'ai commencé, du coup, début août 2019, à faire des TikTok donc sur la médecine. Je faisais un peu de l'autodérision sur la médecine. Voilà. Et il y a eu quand même pas mal de vues sur ces vidéos-là. Et en commentaire, j'avais souvent des petites questions. Par exemple, c'était quoi ta méthode de travail? Tu t'organisais comment? Et ça revenait assez souvent, puis après, plus je continuais mes vidéos et plus dans les commentaires, c'était en mode tu peux faire un studigramme, etc. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas. Et du coup, je me suis lancée précisément le 25 août 2019.
Merci pour la précision.
j'ai fait mon petit compte et du coup, j'ai commencé à poster petit à petit tout ce que je trouvais utile, donc des moyens mémo, des QCM en story, des conseils, enfin voilà, en fait. J'essaie de faire un peu ce que je voyais pas sur les autres comptes et en fait j'ai surtout fait ce que j'aurais aimé savoir avant de faire médecine.
Hésitez surtout pas à aller voir son compte, hein, t'as un milliard de TikTok, enfin du coup de reels ou réels, je sais pas trop comment on dit, beaucoup de posts intéressants, des stories où t'es vraiment active en story, j'ai vu, tu réponds vachement à tes abonnés, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment très très cool.
Ouais.
C'est quoi les conseils que tu donnes le plus? Moi, je suis curieux de savoir.
Les conseils que je donne le plus, en fait, après, dans mes DM aussi, j'ai tout type de messages, mais les conseils que je donne le plus, c'est d'écouter son corps.
Ouais.
Parce que je sais que au S2, justement, avec le confinement, si j'avais pas pris ma psy, j'aurais jamais écouté mon corps. C'est-à-dire que quand on n'en peut plus, il faut s'arrêter. Donc je sais que déjà, le confinement, ça a été dur pour moi. Mais en plus de ça, je continuais à bosser comme une folle. Sauf que du coup, c'était beaucoup trop pour moi. Alors vraiment de s'écouter quand on n'en peut plus, s'arrêter, voilà, quand on a un coup de mou, se rappeler pourquoi on fait ça et pourquoi on est là, en fait, moi je sais que souvent on me dit oui moi j'arrive plus, j'en peux plus, j'ai eu un mauvais classement, etc. Moi aussi j'ai eu des mauvais classements à l'école, ça n'a pas toujours été tout rose, il y a des moments où j'avais pas le temps de revoir certains chapitres, voilà. Du coup forcément, mon conseil c'est toujours, je donne un peu des techniques pour se relever après un échec, des choses comme ça, quoi. Mais c'est souvent, en fait, mes conseils que je donne, c'est plus des conseils de motivation. Donc toujours, moi, je sais que ce qui me motivait en passé, c'est de penser à mon stéthoscope. par exemple.
Ah, pas mal
C'est
ça,
génial.
pas mal ça. Genre tu te le mettais autour du cou et tu te disais, allez, un jour ça va être moi, il faut que je cravache, c'est ça?
C'est ça. Bah, en P1, je l'avais pas encore, mais du coup, en fait, mes tutrices de ma prépa, elles me parlaient souvent de leur stéthoscope, de leur choix qu'elles avaient fait. Et j'étais en mode, moi aussi, je veux choisir mon stéthoscope, etc. Moi aussi, je veux porter ma blouse à l'hôpital. Enfin voilà, où je regardais surtout des vidéos d'opérations, je sais que ça motivait. Bon, après, il y en a, ça les dégoûte un peu, mais je vais pas faire chirurgien du tout pourtant. Hein, mais des vidéos d'opérations, je me dis juste, waouh, genre la médecine, c'est quelque chose quand même.
Donc
Mais
c'est le fameux stéthoscope qu'on voit sur ta photo de profil sur Insta.
c'est ça.
Ah voilà,
Je le
voilà
porte comme une
pourquoi
médaille.
il a tout son sens maintenant. Ok.
C'était ma source de motivation.
Est-ce que t'as des projets pour la suite pour ton compte Insta?
Bah, pour l'instant, pas spécialement, mais voilà, je vais continuer dans ma lancée. Après, je sais pas trop, je sais qu'après la période de l'externat, peut-être que je serai peut-être moins active dessus, mais peut-être quand je serai médecin, je sais pas, avoir d'autres projets avec mon compte Insta, mais pour l'instant, je continue ma petite vie comme ça.
Ouais, pour l'instant, juste aider tous les P1 qui ont beaucoup de mal avec leurs cours, avec leur méthode de travail ou leur motivation, quoi.
Ouais, rechercher toujours un
Ok,
peu,
ok.
gratter dans mon cerveau tout ce qui aurait pu m'être utile ou tout ce qui m'a été utile et que j'y ai pas pensé, genre en faire des pauses, etc., répondre toujours à un max de questions et voilà quoi.
Bah, en tout cas, je te remercie pour eux. Je te remercie pour eux parce que bah, c'est vrai que c'est une grande aide. Je pense que c'est vraiment une grande aide. Et du coup, maintenant, tu es en deuxième année de médecine. Du coup, j'imagine que tu n'auras pas de stage cette année. Ça va être un peu compromis, peut-être.
Bah du coup normalement on aurait dû bah j'ai pas eu mon stage infirmier mais je le rattrape en fin d'année du coup
Ouais.
et j'avais une semaine de stage normalement en novembre que je n'ai pas eu non plus mais du coup là j'ai bien eu mon stage de fin janvier début février j'ai eu un stage de 2 semaines en cardiologie et
Ok. Ok.
normalement du coup je dois rattraper pendant 15 jours mon stage d'infirmier ouais, plutôt fin mai et après en juin on a un stage d'un mois. Mais ça, c'est un stage de P2 classique que même les P2 hors Covid ont fait aussi les années d'avant.
D'accord. Et pour la suite, là, dis-moi, tu m'as parlé de vouloir être médecin, mais est-ce qu'il y a une spécialité en particulier qui te plaît?
Bah, de base, si j'ai voulu faire médecine, c'est pour faire l'ophtalmo, enfin de l'ophtalmologie, donc pour être ophtalmo.
Oui,
Je sais pas
ouais.
pourquoi, mais c'était toujours quand j'allais chez mon ophtalmo, parce qu'il faut savoir que je suis myope depuis peut-être mes 5-6 ans. Du coup, bah, je sais pas pourquoi,
D'accord.
mais à chaque fois que j'y allais, son cabinet, je trouvais ça ouf, vraiment. Et puis je me disais, ouais, c'est un truc qui m'intéresse. Du coup, de base, si je fais ça, c'est pour l'ophtalmologie. Mais après, je sais que voilà, je suis pas fermée pour d'autres spécialités, parce qu'en fait, tout m'intéresse. Déjà, je suis allée en stage en cardiologie pendant 2 semaines, ça y est, je vais en faire une nouvelle spécialité. Parce que ça m'a passionné de ouf, donc peut-être aussi cardiologie, je sais pas. Puis si je passe dans d'autres services, je voudrais certainement faire ça. Donc je verrai un peu tout. Après, je sais qu'il y a des spécialités que bah, j'aimerais pas faire de la chirurgie, par exemple. Parce que
Ok,
pour moi, c'est trop de
ok, ok.
responsabilité.
Ah, je comprends, hein, je comprends. Bah, pourtant, tu regardais des vidéos d'opération.
Ouais, mais c'était juste une source de motivation, mais je sais pas. Quand on est le chirurgien qui, enfin voilà, rester debout pendant des heures, etc. Enfin, c'est trop de pression. Déjà que j'ai vu comme le stress, je l'ai mal supporté durant ma P1. Je me dis que quand même être chirurgien, c'est un stress tout le temps. Enfin voilà quoi. Il y a quand même une grosse responsabilité sur nos épaules. Du coup, je pense que je le supporterai pas, on va dire, toute une vie.
Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Puis, ophtalmo en soi, c'est un métier qui est aussi ultra, ultra intéressant. Je suis sûr qu'il y a vraiment plein de trucs que nous, on se doute pas, quoi.
Bah, ce que j'aime bien dans l'ophtalmo, justement, c'est qu'il y a une petite partie de chirurgie aussi. Bah, par
Ouais.
exemple, la chirurgie de la cataracte et tout. Mais après, c'est des chirurgies un peu précises qui sont centrées sur l'œil. Bon, là aussi, il y a quand même de la pression parce qu'il ne faut quand même pas rendre aveugle le patient. Mais
C'est mieux.
c'est différent. C'est pas comme ouvrir tout le thorax, par exemple, pour remettre une valve mécanique dans le cœur. Enfin, on n'arrête pas le cœur. Enfin, voilà quoi, je trouve que ça, moins. Ou comme là, chez ortho, c'est assez violent aussi. Je trouve que ouais, voilà, l'ophtalmo, c'est un bon compromis.
Ok, bah écoute, Yasmina, moi je te souhaite plein plein de bon courage. Il te reste quoi là? Du coup, il te reste externat, internat et spécialisation. Et combien d'années encore il te reste là?
Je sais pas, je pense minimum bah, 6 ans, ce serait avant d'être interne. Mais après, quand on est interne, je crois qu'il y a encore un moment, après il faut écrire sa thèse, etc. Donc je crois qu'on n'est pas docteur tout de suite, donc je sais pas, peut-être 10 ans peut-être.
Non, c'est sûr que c'est pas tout de suite, tout de suite. Bon, en tout cas, je te souhaite vraiment, vraiment de réussir ce que tu veux faire. T'as un beau parcours, tu m'as donné des, enfin, tu nous as donné des très très bons conseils. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast avec moi, c'était vraiment cool.
Merci à toi de m'avoir proposé.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si t'as bien aimé, comme toujours, la meilleure façon de soutenir, c'est de mettre 5 étoiles au podcast. Comme ça, il sera mieux référencé et ça nous aidera à trouver des nouveaux invités. D'ailleurs, si tu penses que ça peut aider un ou une de tes potes, n'hésite pas à lui partager. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.